derrière ça, c'est des êtres humains qui ont faim. Et quand on a faim, on va à la guerre.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau. Nouveau.
Ce soir.
Guerre, mais quelle violence! Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous avez rendez-vous avec nous, soirée énervée en deux temps, deux mouvements. Je vous explique, car on est délinéarisé. Vous pouvez nous podcaster chaque jour dès 18h avant même la diffusion antenne de 22h à minuit. Je crois que c'est assez clair. Deux parties pour le magazine. Première heure, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Ce soir, l'actu, c'est la France en colère. Mais pourquoi tant de haine? Les policiers face aux policiers. Pas encore. Les pompiers face aux policiers, les policiers face aux gilets jaunes, les black blocs qui s'infiltrent partout, les élus molestés, la violence est-elle devenue une exception française? Que se passe-t-il dans notre pays pour qu'on en appelle aussi à la désobéissance civile, au droit de retrait? Extinction du malaise ce soir dans le NRV, Christophe Bourseiller.
Oui, en quelque sorte, c'est un peu ça l'idée. Alors j'avais d'autres titres, il faut juste que je les retrouve,
voilà,
qui
ne
sont pas mauvais non
plus.
La France en colère, pour l'interrogation, pour reprendre une page Facebook célèbre. Fais-moi très mal, mais couvre-moi de baisers. Pour l'interrogation, pour être un peu plus poète, c'est quand
c'était
même important.
C'était un film dans les années 70, vous
savez. Oui, c'est ça, oui, oui. Hey Black Bloc, tu débloques. Pour l'interrogation.
C'est un hommage à notre directrice de France Inter.
Voilà, et puis Cheban, Wu, Ho, Gui, en hommage à Serge Gainsbourg, mais je l'ai assez mal fait celui-là.
C'est parfait.
Voilà.
La SCAM va bien tomber.
Ben, j'espère. On en a besoin, Laurent. Sinon, c'est la violence.
Et sur le plan musical, ce soir, Marion Guilbault, qui va nous tomber dessus?
On va prendre un peu d'amour avec la pop à peine romancée d'Antoine Pell. Il est en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le Énervé la suite. France Inter, plus de murs de Berlin. Encore ce soir, un nouveau rendez-vous avec X, l'émission de Patrick Penaud. Ce soir, programme paranoïaque, première partie du règne de la Stasi. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe, avant de vous lancer dans votre billet d'humeur ou dans votre éditorial.
Mon billet comique, vous voulez dire.
Je vous présente nos invités, Romain Huet, maître de conférence en sciences de la communication à l'Université Rennes 2. Il est l'auteur de Vertige de l'émeute, de la ZAD au gilet jaune, aux éditions PUF. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Juste à côté de vous, vous avez Ludivine Bontigny, vous êtes historienne. Dernier livre, c'est La France à l'heure du monde, de 1981 à nos jours, aux éditions Point Seuil. Bonsoir.
Bonsoir.
Juste à côté de vous encore, Thomas Bru, sapeur-pompier professionnel délégué CGT, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous venez de ?
Je viens de Rouen.
Exactement. Et ensuite, Caroline Valentin, qui vient juste de nous rejoindre. Elle a tout essuyé, hein, les embouteillages, les travaux, formidable. Elle est essayiste et journaliste, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, c'est parti. Gagnez votre pain.
J'y vais. Pour un tout truc,
éditorial et billet comique et billet d'humeur.
Je vais essayer. Je suis pas sûr de réussir à tout faire en même temps, Laurent. Enfin, vous voulez que je vous dise, Laurent, les extrémistes de tout poil ne parviendront peut-être pas au pouvoir parce qu'ils n'en ont pas besoin, vu qu'ils ont déjà gagné. Oui, Laurent, ils ont réussi à extrémiser l'ensemble de la société. Alors, leur méthode, elle est simple. Surfer sur les colères individuelles pour la transformer en une colère collective. Ainsi, on s'habitue à voir dans la rue des gens se battre, à voir des groupes s'en prendre à la police ou au corps constitué, à assister à des lynchages, à observer la haine en action. Et comme la violence engendre la violence, on observe en retour des exactions policières, des gazages, des nassages qui répondent au blocage, au cassage de vitrines, cette fois, et tutti quanti, enfin bref. Le vrai problème, Laurent, c'est justement l'extrémisation de la société. Le fait que des gens de toutes sortes ne trouvent aucune autre solution que la violence pour se faire entendre et faire aboutir leurs revendications. Alors elle est belle la démocratie, vous trouvez pas? Bref, si on reste dans le cadre légal, Laurent. Bon, si on défile comme un mouton, on n'obtient rien. Mais quand on craque, quand la colère nous étreint, tout devient-il possible? C'est normal, ça? Vous voyez, pour l'interrogation.
Ouais, bah.
Donc, Thomas Bru, vous êtes
l'homme
pompier, professionnel. Oui, bon, vous savez. Vous êtes pompier. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous quand même ce qui vous est arrivé quand vous êtes venu à Paris avec vos collègues pour manifester.
Alors, le 15 octobre, nous sommes venus à Paris. Pas loin de 10 000 sapeurs-pompiers professionnels et agents des SDIS se sont retrouvés pour un défilé dans la bonne humeur, pour faire entendre les revendications. La crise de la sécurité civile qu'on traverse actuellement en France, manque d'effectifs, manque de reconnaissance des pompiers, etc.
Des pompiers appelés dans des missions qui ne les concernent pas du tout, quelquefois pour une ambulance, enfin quelque chose. Oui, donc la saturation de votre propre profession. Oui.
Alors, il y a ça, c'est une partie du problème. Ce problème en cache un autre, au final, c'est le manque de moyens qu'on a dans les services publics. Et bien souvent, ce sont les pompiers, comme on dit souvent, le 15 août à 15h, il n'y a que le 18 qui répond. Donc les pompiers se retrouvent souvent à faire des...
Les pompiers deviennent les jokers de la société. Mais alors donc,
qu'est-ce qui s'est passé
le 15 octobre ?
Eh bien le 15 octobre, une très belle manifestation, festive, comme je disais, et donc qui s'est déroulée globalement dans le calme, sans heurts regrettables. Et donc, il y a eu quelques petits débordements, paraît-il, en marche de cortège, mais qui sont très anecdotiques. Et une fois arrivé place de la Nation, on s'est retrouvé nassé par des cordons de CRS et face aussi à des gendarmes mobiles. Et il y avait à ce moment-là une réunion au ministère de l'Intérieur, donc de nos représentants CGT et de toute l'intersyndicale, pour justement faire entendre nos revendications. Elles n'ont pas abouti. Donc forcément, les pompiers, sachant que ça n'aboutit pas, forcément, ça échauffe l'ambiance.
N'ont pas voulu se disperser, c'est ça peut-être.
Sauf qu'il était 17h, la dispersion était prévue pour 18h.
D'accord.
Et donc, forcément, ça échauffe un peu l'ambiance, mais il y a des agents qui ont voulu aller envahir le périphérique, mais rien d'extrêmement grave jusque-là. C'est lorsque les agents ont voulu repartir, regagner leur car pour rentrer chez eux aux alentours de 18h, où là, les gendarmes mobiles étaient sur l'une des rues de la place de la Nation et empêchaient tout le monde de passer et donc de rejoindre les cars qui étaient juste derrière. Et ils empêchaient aussi les cars de rejoindre la place de la Nation. Donc forcément, il a fallu... entre guillemets, forcer le passage auprès des gendarmes mobiles pour rejoindre nos cars, tout simplement. Donc là, quand on parle de violence, on pourrait croire que c'est une violence organisée par le gouvernement. Peut-être sont-ils mécontents que la manifestation se soit trop bien passée.
Vraiment, vous pensez ça?
Il n'y avait pas moyen de négocier pour demander un passage, donc je ne sais pas, vous n'avez pas essayé de négocier?
Alors oui, des essais de négociations, des tentatives. On a vu des vidéos passer avec des collègues qui essayent de parlementer avec les agents présents sur le terrain et les gradés qui sont derrière ces agents-là. Mais il y avait un ordre formel de ne laisser passer personne. Et donc on s'est fait gazer, on a utilisé les canons à eau. Alors pour la petite anecdote, moi qui viens de Rouen, les canons à eau, ils auraient été plus utiles à Lubrizol plutôt qu'à la place de la Nation pour arroser les pompiers.
Romain, mais comment vous regardez cette situation quand les policiers s'en prennent aujourd'hui aux pompiers ?
Alors, c'est évidemment choquant parce qu'on s'attend absolument pas à que les forces de police s'attaquent aux pompiers, mais par contre, ce qui est décrit ici, on le voit à peu près tous les week-ends depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire en fait une rigidification du maintien de l'ordre qui devient évidemment à la fois assez, enfin globalement excessif, hein, c'est-à-dire que à la fois le nombre de personnes qui est dédié au maintien de l'ordre est absolument extraordinaire, et en même temps aussi spectaculaire dans la démonstration de la force du pouvoir, c'est-à-dire l'utilisation de la violence, évidemment, mais aussi la démonstration, en fait, de la puissance.
Mais on dit quand même, enfin, moi je disais, il y a un syndicaliste policier, Patrice Ribeiro, qui dit « Il n'y a plus de respect pour l'autorité et le sentiment d'impunité progresse ». Caroline Valentin, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de ce policier ?
J'en pense qu'on a plus de mal en ce moment à parler de la violence légitime, et il faut rappeler quand même que l'État a le monopole de la violence légitime. Alors ça ne veut pas dire, bien évidemment, que les policiers peuvent faire n'importe quoi, peuvent taper sur les gens quand c'est pas légitime. Il doit y avoir une enquête poste, en fait, pour savoir si c'est passé dans des conditions normales. Mais moi, je ne force pas le passage des policiers, je ne rentre pas dans les policiers, et j'estime que les citoyens ne doivent pas exercer en premier chef la violence envers les policiers, mais bien évidemment doivent se défendre s'ils estiment qu'ils sont le sujet de violences qui sont illégitimes. Mais ça doit vraiment être une défense. Il faut rappelons et martelons que il en va de notre sécurité à tous, que l'État garde et contrôle cette violence légitime.
Et au-delà, justement, de cette question de violence par rapport aux pompiers ou par rapport aux gilets jaunes, il y a aussi la violence qui est effectuée contre les policiers. Et je lisais une enquête qui disait que quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur, les outrages subis par les porteurs d'uniforme étaient plus fréquents que les violences exercées à leur encontre. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Les délinquants agressent plus qu'ils n'insultent. Et la bascule se serait passée en 2012, sous François Hollande. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Ludivine Bontigny, pour que sous François Hollande, quelque chose se soit crispé et dégénéré?
Non, mais je pense que il y a un soulèvement. En fait, il y a des soulèvements un peu partout. C'est pour ça que on peut nuancer le propos introductif sur l'idée qu'il y aurait une spécificité française, puisqu'on le voit actuellement
en Catalogne,
au Chili, en Catalogne, également au Liban, etc.
À Hong Kong.
En Équateur, à Hong Kong, bien évidemment. Donc il y a un soulèvement et c'est beaucoup plus que surfer sur une situation. C'est une situation qui est extrêmement grave, qui est violente de manière structurelle. Et donc les gens se soulèvent et se révoltent en considérant que justement l'État n'est pas neutre. Moi, je m'inscris en faux contre l'idée que le monopole de la violence légitime ne devrait pas du tout être contesté. L'État n'est pas neutre. Les forces de l'ordre défendent un certain ordre social que de plus en plus de personnes considèrent comme en soi violent, violent structurellement au travail, dans la souffrance au travail, dans le fait que de plus en plus de gens se trouvent dans des situations de grande précarité où il y a véritablement une politique qui a un rouleau compresseur qui est en train de détruire vraiment tout ce qui a été conquis depuis des décennies en termes de sécurité sociale, en termes d'assurance chômage, en termes de conditions de travail, de code du travail,
et
etc.
Parce qu'on et donc, est malheureux, tout ça, il faut taper sur les policiers.
Non, je suis d'accord, mais la violence légitime protège ces gens-là aussi. Et d'abord,
je pense qu'il
surtout,
faut quand même
en fait
inverser la perspective grâce à David Dufresne, au travail du journaliste David Dufresne, qui a mené de manière systématique depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, un travail de documentation des violences policières. Et ce qui est intéressant, c'est que, y compris la presse la plus canonique, a repris ce terme de violence policière. Il faut quand même se rappeler que c'est là qu'est la principale violence, si on parle de rapport de force dans la rue, puisqu'il y a eu 2 décès, puisqu'il y a eu 5 mains arrachées, puisqu'il y a 24 personnes qui ont été éborgnées, parce qu'il y a eu 315 blessures à la tête, dont des blessures très graves. Donc c'est d'abord de ça qu'il faut parler, me semble-t-il, en termes de violence policière. Et puis, moi, la question que je me pose toujours, c'est quel ordre protège les forces de l'ordre? Encore une fois, c'est un ordre qui est profondément injuste. Référez-vous à tous les travaux qui sont menés actuellement sur la croissance vertigineuse des inégalités à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale. Pour ça, on peut se référer, par exemple, à 2 ouvrages importants, me semble-t-il. La guerre sociale en France, de Romaric Godin, qui dit clairement qu'on assiste à une nouvelle forme de lutte entre les classes sociales, et les travaux à l'échelle internationale de Branko Milanovic, qui parle des inégalités mondiales qui se creusent.
Mais
c'est ça, la violence. C'est ça qu'il faut d'abord et avant tout
parler. Il n'y a pas que les policiers qui sont
agressés,
par exemple, que ce soit aux urgences. On sait très bien qu'il y a des agressions aux urgences. 3 agressions par semaine aux urgences. Il y a aujourd'hui les élus qui sont agressés aussi.
80% des élus municipaux affirment subir des violences.
Dans les quartiers, et pas simplement dans les quartiers, pas simplement en milieu urbain. Il y a même une enquête qui montre que même en Lozère, et ça c'est, comment on appelle ça, c'est un pompier d'un syndicat qui le déclare, que même en Lozère, il y a des attaques qui sont perpétrées contre les pompiers. Et là, les policiers n'y sont pour rien.
Non, mais sur les urgences, pardon, juste un mot sur les urgences. Enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que vous mettiez ça en valeur alors que vous ne mettez pas en évidence la violence sociale fondamentale, qui fait qu'aujourd'hui il y a des grèves extrêmement importantes qui touchent tous les services d'urgence, parce que les personnels hospitaliers, et en particulier dans les services des urgences, sont à bout, sont dans une détresse sociale extrêmement agressive, voilà, très violente. Et donc si les gens deviennent agressifs, c'est parce qu'ils passent des heures et des heures parfois en urgence.
C'est exactement ce que
on
a fait une émission sur le sujet.
On ne peut pas juste superficiellement s'arrêter à ce que vous décrivez, qui en fait ne vient pas à la racine en fait de cette violence, qui est encore une fois structurelle.
Oui, Thomas Brouet, pompier.
Oui, je suis plutôt d'accord. Il y a des problèmes sociaux, sociétaux, et il y a une désertification des services publics. Donc, ça engendre de la violence. Bien entendu, la violence n'est pas acceptable contre un agent public, quel qu'il soit, y compris un policier ou un gendarme, je suis plutôt d'accord avec ce qui est dit. Il y a une certaine violence institutionnelle. Pour reprendre l'exemple des pompiers, voilà, on est agressé aussi, sur nos revendications par le gouvernement, on nous entend pas sur la retraite. Là, le gouvernement aurait pu faire un geste au niveau de la retraite, parce que je sais pas si vous savez, les pompiers, on part 5 ans plus tôt à la retraite, mais ces années de bonification là, c'est nous qui nous les payons. Ouais. Et sauf qu'une fois qu'on atteint 25 ans de cotisation, on continue à cotiser, mais on ne s'ouvre plus droit. Donc si le gouvernement aurait voulu, il aurait pu donner cette revendication-là aux pompiers et avancer. Même ça, il ne l'a pas fait. Il a fallu que ce soit des pompiers qui aillent à l'Assemblée nationale pour interpeller des députés, pour que ce soit les députés qui interpellent le gouvernement.
Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a, on peut dire violence légitime ou violence illégitime, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les manifestations, par exemple, vous avez violence des deux côtés. Donc, on peut juger qu'un camp est plus légitime que l'autre, ça c'est un débat auquel...
La loi.
Mais le fait est qu'il y a des violences policières, mais il y a aussi les violences des manifestants. C'est pas la police qui tape sur des manifestants désarmés, c'est des violences des deux côtés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à avoir là-dessus, sur Caroline cette violence Valentin. Générale?
Oui, alors, je répète que la violence légitime, le monopole
dans le cadre de
l'État,
de la loi.
Est dans le cadre de la loi. Donc, ce n'est pas une idéologie, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et ça protège ces gens-là dont vous parlez, dont vous avez raison de souligner, Ludivine Bantini, qu'ils subissent une violence structurelle, d'inégalité, de paupérisation, de désertification des services publics, etc. Donc là, je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas mêler ces éléments qui justifient, à mon sens, effectivement, et qui justifient au sens de beaucoup de Français d'ailleurs, la colère des Gilets jaunes telle qu'elle s'est commencée à s'exprimer en novembre, et la contestation contre l'autorité qui est exprimée de l'État, qui s'exprime à travers l'action des forces de l'ordre, parfois des pompiers d'ailleurs aussi, et qui est celle-là inacceptable, parce qu'elle protège qui d'abord, sinon les gens dont nous parlons? Qui d'abord, sinon les Gilets jaunes? Beaucoup plus finalement que les gens de l'élite qui sont dans des quartiers où il n'y a pas d'insécurité, où il n'y a pas de délinquance. On ne peut pas légitimer la violence contre la police et on doit en même temps, bien évidemment, surveiller et sanctionner les policiers qui auraient utilisé leurs armes, juste, enfin les prérogatives de puissance publique dont ils disposent, hors des clous. Moi, il m'est arrivé d'ailleurs de faire un jour, parce qu'un policier avait utilisé son pimpon pour me faire avancer trop vite à un feu rouge, j'ai porté plainte en fait. J'ai porté plainte parce que j'estime inacceptable qu'il utilise les prérogatives de puissance publique qu'il a pour son confort personnel, parce que là, il n'avait pas envie de rester, en fait, dans l'embouteillage. I know you want me. Every day not only when you're lonely, yeah. You see, you think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it up. Don't wanna hold you, mold you, scold you, split you in half with my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you. Please do the same on your part. You come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. We'll never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make you bet, then you can lie. Just be so much my time.
About the way your body twisting, make me lose control in a distinct boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. Me say my baby today do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I
be honest.
Be Honest, voilà une bonne résolution signée Georgia Smith et la nouvelle reine de la soul anglaise en duo avec le Nigérian Burna Boy. La programmation est moraliste ce soir pour Jean-Baptiste Audibert.
Un boucher bio a été attaqué par une vingtaine de militants véganes, militants de la cause animale. Ils ont déversé des bouteilles de faux sang sur son étal en criant des slogans pour la défense des animaux.
Boucher, meurtrier, élevage abolition.
Le mot est tagué en lettres majuscules rouges sur la vitrine de cette boucherie. Assassin.
Ils ont jeté des pavés sur la devanture, fracturé la porte d'entrée.
La première étape, c'était la peinture. La deuxième étape, si on casse les vitrines. La troisième étape, ce sera quoi ?
Le nouveau rendez-vous.
Et d'un seul coup, vous avez ce groupe de Black Bloc qui arrive. Et là, ils sont vraiment très nombreux.
Vitrines cassées, banques dégradées, barricades de fortune incendiées.
Laurent Goumard.
Je suis Black Bloc. Pour mes gamins, je pèterai tout, d'accord ? Aujourd'hui, j'ai bien compris que le seul mouvement qui fera qu'on va changer les choses, c'est en cassant tout. Pacifiquement, on n'en a jamais rien gagné. Quand le gouvernement a peur, quand les riches ont peur, ah là, ça bouge.
Sur France Inter.
Eh bien, ça c'est dit. La violence serait-elle donc devenue aujourd'hui une arme politique? La violence dans la rue, on en parle ce soir avec nos invités. Ludivine Bantigny, elle est historienne. Le sapeur-pompier professionnel Thomas Bru, Caroline Valentin, essayiste, journaliste. Et Romain Huet qui signe le vertige de l'émeute de la ZAD au Gilet jaune.
Absolument. Et Romain Huet, vous m'impressionnez beaucoup. Je suis très admiratif parce que vous avez participé au cortège de tête, c'est-à-dire au Black Bloc, depuis 2013. Donc vous étiez là en tant qu'observateur scientifique, évidemment, et vous vous êtes promené au milieu de tout ça. Le fruit de votre travail, c'est un livre, Le vertige de l'émeute de la ZAD au Gilet jaune. Et vous dites des choses assez étonnantes sur les Black Blocs. Vous voyez dans ces émeutes une affirmation de la vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors bon, déjà c'est pas un livre sur les Black Blocs en tant que tels, même si les Black Blocs
sont largement présents.
Ce ne sont pas des groupes
de la ZAD aux Gilets jaunes, ça s'appelle.
Oui. Ce que j'essaie de dire simplement, c'est que alors l'expression émeutière, la violence émeutière, c'est quand même une violence aussi de très faible intensité. Les dégradations dont on parle, elles sont essentiellement matérielles sur des cibles extrêmement précises. Rares sont les pratiques de lynchage, les dommages.
Il y a quand même eu quelques policiers incendiés.
Oui, mais je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il y a absolument aucune violence, mais ça reste quand même extrêmement, extrêmement mesuré. Et l'idée, c'est quand même de dire que derrière cela, il s'exprime quand même un désir de monde, c'est-à-dire qu'on a des individus qui, peut-être, se sont résignés pendant un certain nombre d'années et qui, dorénavant, en fait, en veulent au monde. Et ce vouloir au monde, ça traverse même leur corps, hein, et ça se traduit parfois par des formes de colère. Et donc, il me semble ici qu'il s'exprime un désir de monde, une passion pour le monde. Et
c'est pas du nihilisme, selon vous?
Ah non, absolument pas. Je pense que c'est tout sauf du nihilisme. Nihilisme, en fait, on n'irait pas dans la rue.
On veut tout détruire, donc il faut bien aller dans la rue pour tout détruire.
Déjà, bon, on peut dire que les manifestants, en fait, ne détruisent pas tout. En fait, ont une visée. Hein. Ils veulent s'approcher à chaque fois des centres de pouvoir, et que d'une certaine façon, ils s'entraînent dans des tentatives de réappropriation, notamment en fait aussi de la rue, hein, de l'espace public, de la ville dans laquelle on y va, on reste, on manifeste.
Mais quel est leur objectif, ceux qu'on appelle avec des guillemets, bien sûr, les Black Blocs? C'est quoi leur but final? C'est un but révolutionnaire?
Alors, je sais pas quel est leur but final, mais on
vous
l'a pas dit.
Vous êtes au milieu d'eux depuis 2013.
Si vous n'arrivez pas à identifier en effet quel est leur but, ça devient bizarre.
Leur but, en fait, c'est qu'on attend immédiatement qu'il y ait, une attente extrêmement précise, une revendication extrêmement précise.
Ça,
qui
a
une tonalité révolutionnaire, c'est une évidence, quoi. Si on observe un certain nombre de lieux qui sont créés, alors, comme dans les ZAD, hein, j'ai effectivement aussi.
Les zones à défendre comme Notre-Dame-des-Landes.
Voilà. Et dans lesquelles, en fait, ils ne suffit pas simplement en fait là d'être dans l'événement de la manifestation, mais dans lesquels les individus sont en train de penser des formes de vie qui échapperaient au système capitaliste. En tant que tel, il y a évidemment en fait à être à l'écoute de la façon dont ça nous interpelle.
Pour eux, la violence leur permet d'aller vers la révolution. C'est ça leur objectif, c'est la destruction du monde de la marchandise.
Je suis pas sûr que c'est la violence qui permet.
La déstabilisation politique, en fait.
Je suis pas sûr que c'est la violence.
Vous êtes pas sûr qu'ils veulent la destruction du monde de la marchandise ?
Si, je pense qu'il y a effectivement une volonté de destitution de ce monde-là, en tout cas de ce présent-là tel qu'il est organisé, ça de toute évidence. Mais l'utilisation de la violence, en tout cas le recours à la violence, me semble-t-il, n'est pas une fin en soi. En tout cas, ce n'est jamais de cette manière-là que je l'ai perçu. Quand une ZAD est évacuée, évidemment, en fait, il y a des individus qui tiennent
c'est
à
pas
ce
du tout
ont...
la même chose entre une ZAD évacuée et les manifestations ou les émeutes qu'il peut y avoir lors des cortèges des Gilets jaunes faites par les Black Blocs. Le David Bantigny.
Non, mais c'est-à-dire que ces personnes ne sont pas du tout réductibles à l'événement manifestation. Les Black Blocs, comme vous les appelez, en fait...
Avec
sont aussi des individus, des personnes qui sont dans des lieux qu'ils désirent rendre vivants autrement, qui en dehors
c'est
de ces cortèges.
Veulent rendre vivants autrement.
Absolument, bien sûr, parce qu'ils veulent faire échapper ces lieux à la logique, en effet, de la marchandise, de la consommation à outrance,
de toutes les communautés.
Mais parce que ces personnes que vous retrouvez dans les cortèges de tête et qui, en fait, ont peut-être en tête la formule de Bertolt Brecht, c'est plus violent finalement d'ouvrir une banque que d'en braquer une, hein, parce que bon, encore une fois, il ne s'agit que de vitrines brisées, hein, parce que pendant ce temps-là, enfin encore une fois, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, mais il y a d'autres chiffres en tête. Quand on parle de la violence, moi je préférais qu'on parle des plus de 500 personnes qui sont mortes dans la rue.
Vous ne parlez pas des blessés policiers quand même, il faut bien dire. Vous présentez les casseurs en disant il ne faut que casser des vitrines.
Et chaque fois, vous renvoyez l'idée d'une violence.
Mais il y a aussi une violence humaine qui s'exerce sur d'autres êtres humains.
La question que j'aimerais vous poser, et c'est pas d'ailleurs en tant uniquement qu'historienne que je la soulève, c'est comment est-ce que vous auriez appelé les révolutionnaires du 14 juillet 1789, parce que je suis sûre que vous célébrez le 14 juillet. Alors vous les appelleriez des casseurs peut-être, ils s'en sont pris à l'État, ils s'en sont pris justement au monopole de la violence légitime, et on leur doit beaucoup, et ils ont estimé. Moi j'ai souvent en tête ce que disait un religieux, c'était même un évêque brésilien, je vous raconte pas, c'est très rare que je cite des évêques. Il disait il y a trois types de violence, c'est Elder Camara. Il disait il y a trois types de violence, il y a la violence institutionnelle qui organise la répression, la domination, l'exploitation, l'oppression. Il y a un deuxième type de violence qui est une violence révolutionnaire qui s'oppose à la première. Il y a un troisième type de violence qui est une violence répressive qui se fait complice de la première et qui essaye d'étouffer la seconde. Et en fait, il n'y a aucune raison de retenir comme violence que la seconde, c'est-à-dire la violence révolutionnaire qui s'oppose à un monde qui est écrasant et qui en soit violent. Et c'est ça qu'il faut vraiment répéter. Parce qu'elle est structurelle, cette violence.
Je ne sais pas qui ici conteste le fait que des policiers aient pu être violents, et je crois que le JPN en général les épingle, et j'espère que c'est le cas. C'est notre intérêt à tous. Moi, je trouve que vous prêtez beaucoup d'intentions politiques aux Black Blocs. Est-ce que les Black Blocs se représentent eux-mêmes, en fait? Est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce qu'ils ont tous en tête de vouloir créer un autre ailleurs? Non, je ne suis pas forcément. Je suis désolée. Il y a peut-être des Black Blocs qui ont lu Bertolt Brecht. Il me semble qu'il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas lu Bertolt Brecht du tout et qui arrivent ici avec l'intention de tout casser. Je veux dire, certains ont peut-être des ambitions politiques plutôt orientées à gauche, comme vous leur prêtez, puis d'autres n'ont pas d'ambition politique du tout, parce qu'ils n'ont pas forcément la culture politique pour avoir des ambitions politiques. D'ailleurs, vous parlez de la révolution de 1789, mais là, ils avaient des chefs, en fait, qui ont récupéré la violence légitime de l'État pour la canaliser ailleurs, pour la canaliser au service du peuple. Quels chefs ont-ils? Quels projets politiques ont-ils? Ah oui,
que vous voulez
Marat, Danton, Robespierre, ils avaient quand même des gens un petit peu cortiqués qui s'occupaient de leurs revendications.
Justement,
et puis quand vous parlez, attendez, un très intéressant aussi, vous dites que c'était juste des vitrines cassées. Mais derrière une vitrine, chère madame, il y a quelqu'un qui paye pour la vitrine, qui a acheté cette vitrine. C'est avec l'argent dont il a besoin, c'est avec cette vitrine qu'il gagne l'argent dont il a besoin pour vivre.
Justement.
Et pourquoi est-ce que les Black Blocs, ça serait légitime que eux, ils cassent tout, mais en revanche, celui qui va au turban le matin et qui a besoin de gagner cet argent pour nourrir sa famille, ça serait pas légitime qu'on lui, sur la sécurité de son bien.
Je suis en train
et ça, vous ne voulez pas le voir.
Je suis
voir.
En train
je
de
mener. C'est dommage.
Je suis en train
on
de
les citoyens, on est tous libres et égaux, vous savez.
Même les commerçants
vis-à-vis de ces casseurs.
Non, bien sûr. Alors, je suis en train de mener une histoire sociale et politique des Champs-Élysées, des beaux quartiers en général, vous savez. Donc, les personnes qui travaillent dans ces palaces, etc., qui sont femmes de chambre, si vous saviez leur salaire, leurs conditions de travail, vous seriez davantage révoltées.
Mais elles travaillent moins si leur palace est cassé.
Par exemple, Et d'ailleurs, et j'en ai interrogé beaucoup, et elles soutiennent vraiment les Gilets jaunes, tout comme les balayeurs des Champs-Élysées.
Les Gilets jaunes et les Black Blocs, c'est pas pareil.
Elles se disent que là, il y a vraiment la violence qu'elles subissent, elle est beaucoup plus importante que la violence des vitrines brisées. Et quant à ce que vous dites sur qui va payer,
non,
je pense que j'ai pas d'inquiétude à avoir,
hein.
On n'a pas d'inquiétude à avoir sur les assurances.
Les employés payent ultimement, parce que quand le magasin est fermé, ils n'embauchent plus, chère madame.
Ce que disent les Gilets jaunes.
C'est toujours les pauvres qui s'en prennent à la figure, mais vous ne les défendez pas tous, et moi si.
Ce qui se dit dans les mouvements sociaux, c'est qui sont les casseurs? Qui sont les casseurs? Par exemple, vous ne parlez pas de la casse des services publics. Vous avez peut-être vu reportage.
Je l'ai dit juste avant, il y a 10 minutes, j'en ai parlé.
Mais en fait, voilà, vous avez peut-être vu un... S'il vous plaît.
Non, mais pourquoi un vous parlez des reportages?
Un reportage, je vais vous parler d'un reportage qui concerne la violence à la poste.
Là, c'est une violence abstraite. Qui... Là, c'est,
non, c'est pas du tout abstrait quand des gens... Ah non, c'est pas du tout abstrait quand des gens sont amenés à faire des burn-out, à des dépressions graves, ou même se suicider. Il y a une épidémie de suicide actuellement à la poste. Il y en a une aussi chez les cheminots, comme à France Télécom, bien sûr chez les policiers. Et en fait, eux aussi se posent des questions, beaucoup de questions sur les ordres qu'on leur donne, par exemple sur la violence qui a été exercée contre les pompiers. Moi, j'ai vu passer un tweet d'un syndicat de police qui a dit sa honte, mais sa honte à l'égard des donneurs d'ordre. Et c'est la raison pour laquelle le journaliste David Dufresne, à qui on doit beaucoup pour documenter encore une fois ces violences policières, s'est adressé à la place Beauvau. Voilà, la place Beauvau, parce que le problème n'est pas principalement policier, le problème est politique. Et donc c'est à l'État qu'il faut s'adresser, parce que c'est exactement l'État qui détient le monopole de cette violence et qu'elle est de plus en plus considérée comme illégitime.
Thomas Bourru, vous êtes sapeur-pompier, je le rappelle, hein, venu de Caen, c'est ça?
De Rouen.
Vous regardez le débat de ce soir qui est en train d'aller vers les revendications politiques ou pas vraiment des Black Blocs. Comment vous regardez ces mouvements-là?
Alors moi, c'est pas tout à fait ma partie. Enfin, je constate, si je prends l'exemple simpliste des pompiers, c'est que on a voulu venir faire une manifestation pacifiste. Elle s'est bien déroulée. Les pompiers ont fait l'effort de faire une belle manifestation qui s'est bien déroulée. Et maintenant, nos collègues nous disent, la prochaine fois, on va venir en tenue de feu et il va falloir qu'on casse tout pour se faire entendre. Donc il y a bien un problème institutionnel qui est en train de se produire.
Romain Huet.
Oui, moi je pense que le débat sur la question de la légitimité, je suis pas sûr qu'il soit extrêmement intéressant de savoir en fait qui subit ces violences matérielles. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que le sentiment d'impuissance et que la pratique émeutière reste une déclaration d'impuissance, parce qu'évidemment, ça veut dire que politiquement, la capacité qu'on aurait à discuter, à faire reconnaître nos revendications, ne marche plus, ne fonctionne plus. Donc ça, c'est évidemment un constat en fait d'échec collectif sur plan politique. En même temps, en fait, c'est cette idée que à force et à mesure en fait de faire l'expérience d'un monde qui est complètement impraticable. Quand je dis qu'il est impraticable, c'est-à-dire qu'il est inaccessible à ma pensée. Je n'arrive pas à le penser, je n'arrive pas à le réfléchir, je n'arrive pas à le comprendre finalement, ce qui pèse sur moi. Et en même temps, il est impraticable du point de vue de l'action. C'est-à-dire, que puis-je faire pour transformer les choses? Quel geste je peux poser en fait dans le quotidien pour qu'il ait quelques effets dans le réel et qui, d'une certaine manière, en fait, me permette une vie dans laquelle je me reconnais un petit peu? Eh bien, quand ce sentiment général d'impuissance tend à se répandre, eh bien, il n'est pas si étonnant que ça qu'à un moment donné ou à un autre, les individus en fait se focalisent peut-être sur le moment de l'événement et la manifestation. C'est vrai que c'est qu'un micro événement du politique, parce qu'il y a bien d'autres moments en fait où on construit le politique. Mais dans ce moment-là, effectivement, il y a un moment de la colère est en train de faire son droit. Comme la colère est en train de se trouver effectivement un certain nombre de cibles, de corps intermédiaires, hein, puisque les forces de police ne sont que les intermédiaires du pouvoir, hein, c'est-à-dire que le pouvoir, lui, ne s'expose jamais en direct, hein, vis-à-vis des personnes qu'il va oppresser. En revanche, ça va être délégué aux forces de police. Et là, effectivement, dans ces moments-là, il y a c'est pas anodin en fait s'il y a une polarisation, et notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, une polarisation autour de la violence policière. C'est pas la seule expérience politique que les Gilets jaunes ont fait, mais à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose, ces pouvoirs manifester le pouvoir visible en fait qui s'objective devant mes yeux, ce qui n'arrive jamais en fait dans la vie de tous les jours, où le pouvoir me traverse, m'agit, me travaille, mais il est généralement assez invisible.
On parlera aussi de la violence dans quelques instants, la violence par exemple des véganes ou des animalistes, qui est aussi une violence qui n'a rien à voir avec les violences policières. Tout de suite, on compte sur lui pour révolutionner, mais peut-être de façon beaucoup plus pacifiste, la chanson française. Team Up est de retour avec Après eux. C'est un extrait de son nouvel album attendu pour janvier 2020. Oui. Juste pour patienter.
Dans la chaleur moite de juillet, sur un vieux scooter débridé, par la vitesse, les larmes tirées tombent sur leurs jambes dénudées. Ils revers le lac assuré, que rien ne puisse leur arriver. Trop jeune et déjà cabossé, d'une vie en ronce et de fleurs fanées. Au-dessus de l'usine, le ciel est dégagé. Dans l'eau vert bouteille se reflète l'été. Étendus dans l'herbe, ils ne font que fumer. Perdus dans leur rêve, libres d'être oubliés. Percés par le souffle du sirocco, en sourdine un morceau de techno. Le soleil au zénith qui brûle la peau. Rafraîchis de désir, si loin des idéaux, ils se mordent les lèvres et se dévorent. Haute leur jean cul nu sous les rayons d'or, leurs mains se cherchent et se trouvent encore pour languir le plaisir qui finit par éclore. les ombres tombent sur ton. L'obscurité déposera sur les couleurs un voile. Il se fabrique des souvenirs avant que tout ne s'estompe, que l'on oublie les voix et les feux de Bengale.
Rendez-vous.
Je suis là pour me battre. Et on va jusqu'au bout. Mais alors, qu'est-ce qu'on a à perdre? Je gagne 700 euros par mois, madame.
Quand tu ne restes plus rien, bah, il ne reste que ça, malheureusement. La violence et la colère. Quoi.
France Inter.
Cette violence, elle s'est aussi exercée à l'encontre des magasins qui sont le long de l'avenue des Champs-Élysées. Ici, on est devant le Fouquet's avec de très, très nombreux impacts de pavés.
Le nouveau rendez-vous.
Je condamne la violence, certes, mais je la comprends aussi. Quand vous voyez la violence symbolique qui existe dans notre pays, on ne peut pas rester les bras croisés.
Laurent Goumard.
Pensez avant tout que derrière ça, c'est des êtres humains qui ont faim. Et quand on a faim, on va à la guerre.
Le mot est lâché, le mot guerre, violence politique, violence policière, la violence se décline sur le mode social aujourd'hui. Et sous l'ère Macron, en effet, il y a une sorte de crispation, ça prend plusieurs formes. Ça peut être les manifestations, le droit de retrait dont on va peut-être parler tout à l'heure, la désobéissance civile, mais peut-être d'abord reprendre l'histoire du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans le mouvement des Gilets jaunes, et je voulais en parler avec vous, c'est qu'on dit les Gilets jaunes, c'est vrai, en étant violents, d'une certaine façon, ou en tout cas certains d'entre eux,
ont
obtenu des résultats sociaux que la CGT, la CFDT et les autres n'ont pas obtenu en plusieurs années de manifestations pacifiques. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on s'aperçoit d'un phénomène avec les Gilets jaunes, représentatif peut-être de notre époque, c'est le fait que la violence des Gilets jaunes s'exerçait de tous les côtés en même temps. C'est-à-dire violence contre la police, violence contre, pourquoi pas, les vitrines pour les Gilets jaunes qui étaient des primo émeutiers, on pourrait dire, qui ont découvert cette violence-là, mais violence aussi alors contre les journalistes, ou violence contre eux-mêmes, puisque je me souviens qu'on a reçu ici même Ingrid Levavasseur, qui est ancienne Gilet jaune, qui nous expliquait pourquoi après, parce qu'elle avait eu le malheur de passer à la télé, elle s'était fait lyncher, elle disait, en tant que femme, d'ailleurs, elle disait que c'était parce qu'elle était une femme qu'elle n'avait pas eu le même statut que les hommes Gilets jaunes, en quelque sorte, mais donc on a l'impression d'une violence tous à est-ce que cette violence n'est pas représentative, Romain Huet, d'un phénomène profond?
Je ne sais pas si c'est représentatif d'un phénomène profond, mais en tout cas, ça manifeste très clairement, encore une fois, une politique, de manière générale, assez inaccessible, en tout cas par les voies classiques. C'est-à-dire que la simple manifestation ou la simple expression de ces revendications n'est pas suffisant, en fait, pour interpeller le gouvernement. Donc l'incapacité à faire reconnaître ses torts par les voies classiques, et notamment par les voies du dialogue, peut conduire un certain nombre de personnes à chercher d'autres voies. Je ne suis pas sûr qu'en fait, le basculement dans la violence, et en tout cas en ce qui concerne les Gilets jaunes, soit quelque chose de médité, préparé, et rationaliser, etc. C'est quelque chose qui va se réaliser au cours de...
Violence fratricide, comment vous l'expliquez?
Vous voulez dire...
Entre eux,
qu'ils se sont exercés.
Comment
entre
vous l'expliquez?
La violence entre eux, c'est on a des personnes qui font un mouvement extrêmement long, qui est évidemment en fait épuisant pour les personnes hein, quand elles vont manifester. C'est le week-end entier qui est dédié en fait à l'organisation même de ces manifestations. C'est s'épuiser dans des ronds-points dans lesquels en fait on cherche encore à faire reconnaître ses revendications auprès des citoyens. Bah, tout ça, ça crée évidemment des effets à la fois où
ils sont
fatigués. On est la famille, donc il y a aussi quelque chose d'une union qui est extrêmement fort. D'ailleurs, s'il y a des Gilets jaunes qui tiennent aussi longtemps d'ailleurs dans le mouvement, c'est aussi parce qu'en fait ça a été un moment de rencontre de nouvelles personnes, et le fait que le mot famille revienne systématiquement me paraît en fait être assez symbolique d'une unité assez importante chez les manifestants. En même temps, alors évidemment, comme tout groupe social, on peut supposer, quand on est pris dans une intensité dans un temps aussi long, il n'est pas étonnant qu'il y ait un certain nombre de divisions qui puissent se manifester.
Caroline Valentin.
Ben, écoutez, je crois qu'on l'en sait depuis longtemps, et en tout cas depuis la Révolution, que tout mouvement social qui dure est au bout d'un moment pris en main par les radicaux. Et c'est ce qui est arrivé aux gens qui ont voulu se manifester comme représentants des Gilets jaunes. Maintenant, ce qui me dérange un peu, c'est que justement, le mouvement a duré. Le nombre de manifestants s'est réduit. Il s'est réduit justement à ces radicaux-là qui ont greffé sur ce mouvement des Gilets jaunes. Chacun y allait de sa petite revendication personnelle, qu'on soit à l'extrême droite, qu'on soit à l'extrême gauche. Or, au départ, le mouvement était beaucoup plus simple que ça. C'était des ménages à revenus moyens, qui étaient
artisans, commerçants,
voilà, 50% urbains, 50% hors urbains, qui étaient ceux qui payaient beaucoup pour les prestations sociales, mais qui ne les recevaient pas forcément. C'est ce qu'on appelle les petits blancs. C'est d'après l'INSEE, et c'est un mouvement qui venait principalement de la grande diagonale du vide, comme le dit Hervé Lebras, c'est-à-dire du grand sud-ouest au nord-est. Et donc après, évidemment, comme dans tous les mouvements sociaux qui durent, pris en charge par les radicaux, et c'est à ce moment-là que tous ces gens, ces quelques personnes qui s'étaient portées, qui voulaient bien être représentants des Gilets jaunes, s'en sont pris plein la figure, et que c'est devenu violent, évidemment, à l'intérieur. Maintenant, moi, ce qui m'embête un peu quand on parle de la violence des Gilets jaunes, c'est qu'on donne l'impression que tous les Gilets jaunes sont violents, et que tous les gens qui soutiennent les Gilets jaunes, ne prônent cette violence. C'est pas le cas. Je crois qu'il faut le dire. Il y a une violence qui est, il y a un effet de loupe médiatique sur certains faits, comme par exemple cette fameuse boucherie. Bon, bah, effectivement, c'était violent la boucherie, mais c'était une boucherie une fois. C'est pas le monde entier.
Alors
qui est
où
violent,
commence et où s'arrête la violence? C'est aussi la question qu'on se posait. Par exemple, quand on a parlé l'été dernier de la grève du bac, les profs qui refusaient de corriger les copies, donc ils plongeaient les élèves dans une angoisse,
une sorte de désobéissance
civile. Est-ce que c'était de la violence ou est-ce que c'était une désobéissance légitime, quand les salariés de la SNCF exercent leur droit de retrait? Alors il y a un débat là, hein, pour savoir si c'est un droit de retrait légitime, comme des journalistes qui disent « je me retire parce que je suis pas d'accord avec ma rédaction en chef ». Pourquoi pas, hein, la question est posée. Ou est-ce que c'est, comme dit Nicolas Bétou, bon certes plutôt à droite, qu'une prise d'otage sociale? Vous voyez, quelle question qu'on peut se poser, Ludivine peut-être.
Et notamment aussi sur les histoires de désobéissance civile qui sont mises en place par exemple par extinction
rébellion. Oui, non, mais enfin, je trouve que tout ce qui se dit est tellement extérieur, est tellement réducteur, est tellement caricatural, parce que, par exemple, insister sur la violence des Gilets jaunes, c'est passer complètement sous silence ce qui se produit concrètement sur les ronds-points, dans les cabanes. Je sais pas si vous êtes allés dans les manifestations, c'est des solidarités incroyables, c'est
ça
énormément,
se produit beaucoup moins, c'est énormément. Un mouvement en déclin.
S'il vous plaît, je voudrais aller jusqu'au bout parce que ça me semble très important sur l'hospitalité, sur le fait de sortir de son isolement, sortir de la violence sociale que représente l'isolement dans la précarité, dans la grande pauvreté. C'est beaucoup plus que des classes moyennes qui se sont mobilisées. Je pense que c'est assez méprisant de dire oui, il y avait des petites revendications, un tel avait la sienne, un tel avait la sienne. Il y a une matrice sur les Gilets jaunes et pour le coup, vous voyez,
j'aime bien les enquêtes sociologiques parce que c'est concret.
Moi, je suis historienne et je travaille aussi beaucoup avec des sociologues. On a écrit déjà sur les Gilets jaunes et on a participé.
C'est formidable. Et lis les travaux des sociologues.
Non, ce mouvement. Hein, pour ma part, j'ai vraiment et je continue à le faire, à la fois sur les lieux où les choses se passent, pas seulement les manifestations, mais il y a une matrice qui va bien au-delà de ce que vous dites sur la violence, c'est-à-dire la justice sociale, la justice fiscale, la justice climatique. Tout ça est évidemment lié et c'est aussi reposer à nouveau frais la question de la démocratie. Donc, en fait,
justement, en tant qu'historienne, j'aimerais vous entendre sur la façon aujourd'hui qu'ont certains mouvements de manifester sans violence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de violence ou qu'il faut en avoir, mais par exemple, Extinction Rebellion qui prennent la désobéissance civile, qui a un rapport quand même, à même avec les Gilets jaunes ou avec ce qui s'est passé Nuit Debout.
Le rapport, d'ailleurs, on l'a vu lors de l'occupation du centre commercial Italie 2, qui est symbolique parce que c'est considéré comme le temple d'un certain capitalisme et d'une consommation à outrance. Et lors de cette occupation du centre commercial Italie 2 à Paris, il y avait à la fois des Gilets jaunes, il y avait des membres d'Extinction Rébellion, et il y avait des membres aussi qu'on peut considérer comme faisant partie en général du cortège de tête dans les manifestations. Ce qui était très intéressant, c'est que les discussions étaient très vives et à la fois très respectueuses. Il y avait une écoute avec deux stratégies différentes, en effet. Celle d'Extinction Rébellion qui consistait à dire, alors que la matrice est commune, c'est-à-dire une opposition à un capitalisme prédateur, à un capitalisme dévastateur et destructeur. Ça, c'est la matrice commune. Et ensuite, deux stratégies. Soit l'absence de violence, parce qu'on considère que c'est de cette façon qu'on fera véritablement réagir les pouvoirs publics, soit au contraire, y compris de la part de celles et ceux qui, au départ, pouvaient être non-violents. C'est le cas de beaucoup de gilets jaunes qui, au départ, disaient les policiers avec nous, et qui se sont aperçus qu'en fait, c'était pas possible, parce que la confrontation est d'emblée violente, parce que le pouvoir n'accepte tout simplement pas d'être remis en cause, et que on parlait d'autorité tout à l'heure, je pense qu'on peut même parler d'autoritarisme du pouvoir qui devient violent pour appliquer sa politique elle-même.
Alors justement, la semaine dernière, on avait ici même au micro Léa qui vient d'Extinction Rebellion, et je crois qu'elle va dans votre sens par rapport à la prise de position de certains Black Blocs.
Les Black Blocs étaient avec nous le 5 octobre à Italie 2 et il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de violence. Il y a eu des histoires sombres de tags qui n'auraient jamais dû se retrouver là, mais ça s'arrête là. Nous étions quand même 2000 des
donc
associations
vous êtes,
Adama.
Vous êtes prêts à accepter les Black Blocs dès lors qu'ils se conduiront de
mais
façon
dès lors qu'ils respecteront notre consensus, ils l'ont prouvé le 5 octobre. Est-ce que ça se reproduira? Je n'en sais rien. Toujours est-il, moi, les rangées du côté des imbéciles violents qui veulent absolument tout casser. Non, c'est un autre mode d'action. Ce n'est à la base les Black Blocs, ce n'est pas une violence physique, c'est une violence matérielle. C'est un choix, ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui d'Extinction Rebellion. Pour autant, je n'ai pas envie de leur cracher dessus.
Mais pour autant, je n'ai pas envie de leur cracher dessus. Caroline Valentin.
Donc Léa d'Extinction Rebellion n'aime pas beaucoup la violence, y compris la violence matérielle, puisqu'elle fustige les tags. Et cela dit,
mais pour autant, ne condamne pas non plus la violence quand elle est perpétrée par les Black Blocs. C'est ce qu'elle raconte.
Non, elle disait, je crois, au contraire, qu'elle voulait bien les accepter si c'était d'accord avec leur consensus,
oui,
du
mais,
moment que c'était pas de la violence
autant,
matérielle.
Mais pour autant, elle ne remettrait pas en question cette violence si elle s'exerçait. C'est ça.
Bah là, elle ne s'est pas exercée, elle avait l'air de s'en féliciter.
Oui, de s'en féliciter.
La violence des tags, justement, ce qui s'est passé au centre commercial Italie 2, c'est que, enfin, on peut parler d'une violence des tags, moi, ça me paraît complètement aberrant et presque délirant, mais en fait, à ce moment-là, je pense que la violence, elle est publicitaire, vous voyez, enfin, des agressions publicitaires, on en subit, enfin, aller dans le centre commercial Italie 2, aller à Châtelet-Léal, c'est ça que vous allez avoir.
Mais empêcher
c'est
les
quoi
gens de
d'autre
faire leur
que
course,
des tags?
C'est pas de la violence.
En fait, là, dans 50 ans, vous estimerez que ces tags sont de la poésie parce qu'en fait, ils n'auront plus la dynamique politique qui peut inquiéter en fait certains aujourd'hui.
Enfin, c'est Léa qui parlait de ça.
C'est beaucoup plus poétique. C'est beaucoup plus poétique que la violence publicitaire aussi qu'on subit au quotidien.
Mais faire des gilets jaunes des écologistes, c'est un petit peu fort dans la mesure où leur lutte s'est faite contre la taxe écologique.
Pas du tout. C'est parti de là et très vite ils se sont posés énormément de questions.
C'est dans votre grille. Dans votre grille.
Mais regardez.
Plaquez votre idéologie en fait sur les revendications.
Parce que vous n'avez pas d'idéologie, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la neutralité de l'État, par exemple.
Mais vous revendiquez votre absence de neutralité. Mais moi, je suis pas l'État, chère madame.
Je
ne suis pas l'État. Je ne dis pas que les gilets jaunes sont tous violents. Je ne dis juste pas qu'ils pensent tous comme vous pensez. C'est différent.
Tout à l'heure, vous avez indiqué que l'État était la loi non idéologique. Simplement, il suffit de regarder la dynamique et le déploiement du mouvement des gilets jaunes. Très rapidement, la question de la taxe carbone a été dépassée, tout en restant importante, par des revendications multiples et des aspirations multiples et désespoir aussi.
Beaucoup d'espoir. Au fur et à mesure que le nombre des gilets jaunes quittait les cortèges, effectivement, les revendications se sont radicalisées, comme dans tous les mouvements sociaux à travers l'histoire.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Même si le mot poésie, j'aurais bien voulu finir là-dessus, de façon beaucoup plus consensuelle. Mais ça ne me ressemble pas. On va partir en musique tout de suite, avec vous, Marion Guilbeault.
All right, let's have a little rumble at the Ritz tonight.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
C'est tendu chaque fois hein, d'arriver comme ça, Marion Guilbeault, pour le live.
Venez nous calmer, Marion.
Je ne suis qu'amour, joie, compassion, paix dans le monde. Ouais. Voilà,
ça, c'est le discours d'une Miss France. Continuez.
Tout à fait. Alors ce soir, on va faire connaissance avec Antoine Pell. Antoine Pell, jusque-là, c'est un musicien plutôt discret, un homme de l'ombre, comme on dit. Et cette ombre, c'était celle de la petite amie de la chanson française, Juliette Armanet. Vous avez reconnu la maman solitaire, Juliette Armanet, cet extrait de son premier album Petite Amie. Et on entend aussi derrière la patte et les oreilles d'Antoine Pell, qui était à la manœuvre en tant que co-réalisateur avec Marlon B et arrangeur de cet album. Alors Antoine Pell, il a fait ses classes dans la pop, joliment désaccordée, celle de Conan Mocassin ou de Mac DeMarco. Il travaille depuis son home studio à Lille sur une musique analogique et il joue chacune des notes et il décide de chacun des souffles qu'on entend dans sa musique. Alors il y a un côté obsessionnel, un peu perfectionniste qui s'épanouit dans ce premier album.
Contrôle fric, oui.
Ifi Romance, ouais, c'est ça. Un disque quand même très très séduisant, qui détonne en ces temps de musique urbaine, aussitôt enregistrée, aussitôt consommée. On tient là des romances digitales, languides, qui s'étirent jusqu'à dépasser les 4 minutes réglementaires, dans des climats aussi ouatés que mélodieux. Alors, Ifi romance, tout est dit dans ce titre. Ce sont des chansons pour tomber amoureux, écrites par un amoureux du son, avec des titres parfois en français comme Latence, Mémoire, Tampon, Haute Fidélité. Moi, je lis tout ça sur la pochette de son premier album. Et je me demandais, bonsoir Antoine Pell, mais je me demandais pourquoi des titres en français alors que toutes les chansons sont chantées en anglais. Vous pouvez nous éclairer sur cette petite coquetterie.
Je suis français, j'ai une culture anglo-saxonne. Ça fait que les titres de mes chansons sont soit en anglais, soit en français. C'est une petite coquetterie, en effet, que je m'accorde. Oui.
D'accord. Et Close to You, le titre que vous allez jouer maintenant, il parle de quoi ?
Ah, c'est une poésie un peu moins politisée que celle qui était évoquée avant.
Ouais.
Ça parle d'un élan amoureux qu'on a quand on veut être proche de quelqu'un et qu'il est absent.
Écoutez, nous on est là, on est très présents, on est proche de vous. Antoine Pell, c'est à vous, en live, dans le NRV.
Merci.
Some people won't score. I'm playing like everybody else. Standing on shore, too upset to dance like others. I'll count down when you put your hands on me. I want you to hold me, baby. There's nothing left to do. It feels so. You should know that I'm never gonna let you down.
bien, très soul, mal, hein, d'Antoine Pell. C'est extrait de Ify Roman, c'est son premier album, ça vient de sortir. On est complètement fan de ce disque avec Laurent Goumard. Il est très bien accompagné.
Moi, je
Allez, rejoignez-nous. Il est accompagné ce soir par Hugo à la basse, Nicolas à la batterie, Edouard au clavier, Thomas à la guitare. Il sera en concert à Tourcoing le 21 novembre, au Bar en Transe à Rennes le 7 décembre. Et la prise de son ce soir était assurée par le Ify Club du 621, Alexandre Chenet, Serge Viguier. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés par le Nouveau Rendez-vous.
Merci à vous. Et merci à tous nos invités. Merci Thomas Bru. Bon retour à Rouen. Merci, merci Caroline Valentin. On vous retrouve notamment dans Causeur. Romain Huet, Le Vertige de l'émeute de la ZAD au Gilet jaune est paru au PUF. Et Ludivine Bantini, La France à l'heure du monde de 1981 à nos jours. C'est aux éditions Point Seuil. Merci à vous quatre. C'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes. Ce sera le NRV de la suite pour plus de France Inter. Mais demain, au programme, quoi qu'est-ce?
L'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal.
On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd.
Eh ben on en parlera demain. À la recherche de la masculinité, où sont les hommes? On vous attend sur le sujet. Vous pouvez laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. Demain en live, Marion.
On a rendez-vous avec la pop canaille de Marie-Flore.
Et le NRV, c'est Juliette Medevielle à la réalisation. Programmation, préparation, Virginie Rouzic, Clémence Diligent. Et merci à Christophe Bourseiller pour son éditorial, sa participation et son billet.
Le billet comique.
Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal pour un rendez-vous avec X dans les antres de la Stasi, programme paranoïaque pour le NRV la suite. France Inter Plus, bien sûr.
Rendez-vous.
Tu vas donner rendez-vous demain.